Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le pass sanitaire qui divise. Nous sommes avec Nicolas qui est soignant à Toulon. Pour ou contre, bonjour.
Bonjour Pascal. Ben, vous me demandez si je suis pour retrouver ma liberté de revivre autrement. Normalement, je vous réponds oui sans hésiter.
C'est déjà une manière de répondre astucieuse que vous avez mise en place. Mais vous donnerez vos arguments dans une seconde. Le rappel des titres avec Christelle.
Pas de quatrième vague cet été. Les projections de l'Institut Pasteur sont optimistes. L'épidémie reflue et la vaccination progresse. L'Europe met au point ce qu'elle appelle un certificat numérique Covid européen, un pass sanitaire avec un QR code qui pourrait être lu dans tous les pays. Un maire agressé par un de ses administrés, c'était à Ouge, dimanche après-midi, près de Dijon. Il a demandé à un jeune homme qui circulait en quad de s'arrêter. Le ton est monté, les coups ont plu, il a 2 jours d'ITT. Le Kremlin, principal allié du président biélorusse Loukachenko, regrette que l'Union européenne veuille contourner l'espace aérien de ce pays. C'est très coûteux pour n'importe quelle compagnie aérienne, explique le porte-parole de Vladimir Poutine, qui ne fait bien sûr aucune allusion à l'arrestation d'un opposant biélorusse. Procès filmé, droit renforcé. Dès l'enquête préliminaire, fin des réductions de peine automatique. Le projet de loi d'Éric Dupond-Moretti doit finalement être adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une loi baptisée « Confiance dans la justice » pour reconquérir les Français dont 1 sur 2, justement, n'a plus vraiment confiance. Vous connaissez le 3919, cette plateforme téléphonique d'écoute pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Eh bien, dès la fin du mois d'août, ce numéro sera accessible enfin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une mesure qui était réclamée depuis des mois.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est la question, merci Christelle, c'est la question que nous posons. Êtes-vous favorable au pass sanitaire? Êtes-vous prêt à montrer que vous êtes vacciné, à présenter un test négatif pour voyager? Ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez une contrainte insupportable? Et pas tant une contrainte d'ailleurs, mais qu'une liberté entamée. Alors nous sommes avec Nicolas.
Bonjour Pascal.
Rebonjour Nicolas. C'est marrant comme vous avez posé le débat. Tout de suite, vous avez dit « je suis pour la liberté retrouvée ».
Ben oui, tout simplement. Ça fait partie des outils pour retrouver un semblant de vie comme avant. Donc ouais, je suis tout à fait pour, absolument. Moi, je suis déjà vacciné en partie, j'ai déjà fait la première injection. Et par rapport à la confidentialité, bah, ma foi, si vous regardez sur mon Facebook, vous en saurez bien plus sur moi qu'en voyant mon pass vaccinal, comme à peu près tout le monde.
Je suis assez d'accord avec vous, ça m'amuse toujours parce que les gens sont prêts à donner plein d'informations sur eux-mêmes sur Facebook et puis dès qu'on leur demande de donner d'autres informations, ils crient parfois comme de manière étonnante.
Par contre, la question que je me posais, c'est par rapport au test PCR. On connaît le prix du test PCR, environ 70 euros. Donc, les gens qui ne voudront pas se faire vacciner auront la possibilité de faire le test PCR. Mais en quoi ça serait à la Sécurité sociale de payer pour que les gens puissent aller à un concert?
C'est une bonne question, là encore, que vous posez. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse.
Eh oui.
Bon. En tout cas, vous êtes peut-être sensibilisé aussi parce que vous êtes aide-soignant, vous êtes déjà dans ce monde médical et peut-être que vous avez vu les ravages qui peuvent exister de temps en temps, qui peuvent exister avec la Covid.
Bah, malheureusement, je n'exerce plus pour des raisons de santé, mais voilà, effectivement, je suis sensibilisé. Je suis très fan d'épistémologie, c'est-à-dire la science des études scientifiques. Et j'ai tout lu, moi j'ai tout lu, j'ai quasiment tout lu depuis que tout est sorti. Ça me permet d'avoir un regard plus ou moins éclairé.
Bon, ce qui m'ennuie évidemment, c'est que c'est un peu obliger les gens à se faire vacciner. Voilà, et que celui qui ne sera pas vacciné n'aura pas les mêmes droits que celui qui l'est. Et c'est peut-être ce que va développer comme idée Gaëlle, qui est avec nous, Gaëlle au féminin. Bonjour Gaëlle. Vous
Bonjour
habitez dans
tous.
Le Val d'Oise et vous êtes contre le pass sanitaire parce qu'en fait, ceux qui sont contre le vaccin, bah, par définition, ils sont contre le pass sanitaire et ça semble être votre cas.
Tout à fait. Enfin, c'est pas que je suis contre la vaccination, mais j'ai pas du tout envie de me faire vacciner. Je me suis jamais fait vacciner pour la grippe et je ne vais pas commencer avec le Covid.
Et pourquoi? Pourquoi au fond? Ça m'intéresse vraiment, hein. Je vous assure.
Pourquoi? Pourquoi ? Parce que on a des défenses immunitaires, il faut qu'elles apprennent à se défendre toutes seules. Mmh. On commence à vacciner un peu pour tout et n'importe quoi, on se rend compte que les petits Parisiens...
Gaëlle, c'est pas tout et n'importe quoi la Covid. Vous voyez, c'est pas...
Non.
Moi, je voudrais vraiment qu'on creuse cette idée, parce que si tout le monde fait comme vous, et vraiment, je veux pas me mettre dans la position de donneur de morale, hein. j'ai horreur de ça, mais si tout le monde fait comme vous, par définition, l'épidémie ne s'arrête jamais. En Israël, toutes les restrictions sont levées depuis hier parce que la population est vaccinée.
Alors, écoutez, moi je pars par un principe que ça fait plus de 30 ans qu'il y a le vaccin de la grippe et que malheureusement, tous les ans, il y a encore des grosses épidémies de grippe et il y a toujours des morts de la grippe. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, pas de la poudre aux yeux, mais c'est un peu illusoire de se dire que le vaccin va tout régler.
Bah, en Israël, voilà. C'est un exemple chimiquement pur, si j'ose dire, puisque c'est difficile d'entrer en Israël. Donc, il y a peu en ce moment de... On ne rentre pas sans PCR, sans vaccination, etc. Et vous vous apercevez que toute une population vaccinée, je vous le répète, fait que toutes les mesures ont été levées. Alors, on va voir si ça reprend ou pas.
On verra
mais
bien,
si ça ne reprend pas, on a un exemple sous nos yeux que ça marche quand même.
Oui, enfin, en espérant que les chiffres qui nous sont communiqués soient corrects, parce qu'après tout, la Chine nous disait ne pas avoir tant de morts que ça, et on se rend compte qu'il y a peut-être eu des loupés.
Mais vous rendez compte, Gaëlle, en fait, vous ne croyez, c'est pour ça que j'essaie toujours de creuser, en fait, vous ne croyez, je ne vais pas dire rien, mais même Israël, vous imaginez qu'on ne vous dise pas la vérité ?
Non, je ne dis pas. Moi, mon point de vue, c'est pour l'instant, j'attends. Je préfère attendre pour être vaccinée ou pas. Si je peux ne pas l'être, je ne serai pas vaccinée. Le passeport sanitaire, eh ben, ce sera obligatoirement un test PCR si je veux retrouver cette espèce de liberté et surtout voyager. Donc, c'est une contrainte supplémentaire et c'est peut-être même après un outil de discrimination.
Bon, restez avec nous, Gaëlle, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir les raisons et les arguments. Et j'ai parfois l'impression que, au fond, vous ne dites pas forcément ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, peut-être que c'est que vous avez peur, tout simplement, et que vous pensez que ce vaccin n'est pas fiable. Pourquoi pas ? Et plus même, n'est pas fiable. Peut-être pensez-vous qu'il est dangereux, ce qui est encore au-delà. En tout cas, la pause, je salue Damien Béchiot.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui, ça faisait longtemps, cher
tout à fait.
Damien, que je ne vous avais vu à ce poste-là.
C'est un plaisir.
Je vous remercie. Je salue Pierre-Louis, qui est là. Je salue évidemment Laurent Tessier, Cyranouche, Olivier, j'ai vu, Evan, et Jules et Charles sont là. La grosse équipe. Et quand Jules est au violon, Léon est à l'accordéon, comme chacun sait. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour
Laurent.
À tous. C'est la question qui vous fait réagir au 32-10. Êtes-vous favorable au pass sanitaire pour voyager, aller dans les salles de spectacle, les festivals, les salons ? Le certificat numérique Covid européen, c'est son nom, doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Il vous permettra de montrer que vous êtes vacciné, mais pas seulement. Nathalie Collin-Euterlet, députée européenne centriste, était l'invitée de RTL Midi.
On aura la possibilité de présenter soit un test PCR de moins de 72 heures, soit même un test antigénique de moins de 24 heures. Ce certificat n'est pas obligatoire. Soyons bien clairs, si vous ne voulez pas utiliser ce certificat, vous en avez tout à fait la possibilité et à ce moment-là, vous vous pliez simplement aux restrictions de chaque État membre qui vont être imposées.
Mais justement, est-ce pour vous au contraire une restriction de liberté ? C'est ce que pense Jean-Marie Bigard.
C'est une honte nationale. Je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anticorps. J'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde. Passe sanitaire, non.
Et sur la page Facebook de l'émission, Alain est catégorique. C'est le seul moyen pour établir la confiance et une sécurité dans les déplacements. Elisabeth rêve d'un retour à une vie normale. Donc oui, au pass sanitaire. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Demande Serge. Hein. C'est la condition pour reprendre notre quotidien. Gérard lui prend du recul. On est bien obligé de se faire vacciner contre certaines maladies quand on voyage. Hein. Ce pass existe déjà en réalité. Mais Auréa s'interroge sur nos réseaux sociaux. Souhaitons vivre dans ce genre de monde ? Et on a beau vouloir nous rassurer, conclut Jérémy, mais j'ai des doutes sur l'utilisation de nos données personnelles.
Il y a des des trajectoires parfois qu'on comprend mal. Et celle de Bigard nous interpelle. C'était un comique qui avait du talent. Vous l'avez peut-être vu Parce qu'au-delà de entendre, lorsqu'on le voit dans l'état dans lequel il est, lorsqu'on voit son visage tel qu'il s'anime, lorsqu'il parle de ce sujet, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aujourd'hui comme ça. Ce serait intéressant d'ailleurs, pourquoi pas, de l'appeler durant l'émission. Et cette trajectoire, elle est tout à fait étonnante. Gaëlle, on va terminer avec vous. Vous étiez contre, oui. Et je disais tout à l'heure que peut-être rechignez-vous à dire au fond ce que vous pensez. Bigard, alors pour le coup, lui, il avance non masqué, puisqu'il dit ce vaccin qu'il a qualifié comme il l'a qualifié à l'instant.
Non, je le ferai si vraiment je suis obligée pour quitter la France, parce que j'ai des voyages en cours que j'espère pouvoir faire, donc j'y passerai, mais ce sera par obligation. On m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire.
Mais on vous oblige, Gaëlle, pardonnez-moi, j'entends ce que vous dites, mais toute la vie, quand vous êtes en société, on vous oblige à plein de choses. On vous oblige à avoir un permis de conduire pour prendre une voiture. On vous oblige à ne pas rouler au-delà de 130 à l'heure sur l'autoroute. On vous oblige, je veux dire, à ne pas boire de l'alcool lorsque vous prenez le volant. Je veux dire, il y a énormément de choses aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle les règles qui permettent de vivre en société.
Oui, mais ça, c'est des règles pour vivre en société. C'est-à-dire qu'il y a un comportement, quand vous prenez une voiture que vous ne savez pas conduire, vous mettez automatiquement beaucoup de monde en péril. C'est vrai que si on ne se fait pas vacciner, on met aussi du monde en péril. Mais au-delà de ça, si on commence à dire « Ok, à ce vaccin-là, on est d'accord », il va y avoir plein d'autres vaccins qui vont sortir et on va nous dire, maintenant, il faut tel vaccin, tel vaccin. La preuve, c'est que là, on commence déjà à dire qu'il va falloir faire des rappels pour le Covid. On en revient au vaccin de la grippe. Il faut vacciner un maximum de monde pour la grippe. Et pourtant, ça fait 30 ans que le vaccin existe, ça fait 30 ans qu'il y a des épidémies et que ces épidémies continuent à tuer. Le Covid est là, il restera là, il va muter. Et tous les ans, il faudra faire de nouveaux vaccins. Et si ça fait comme avec la grippe, bizarrement, on aura été vacciné. Ah, mais manque de peau, on n'aura pas eu la bonne souche et il y aura encore des morts, que ce soit du Covid ou de la grippe.
Merci en tout cas, Gaëlle, de donner votre avis. Et c'est pour ça que cette émission nous intéresse. Nous sommes avec François, qui est retraité à Deauville. Et je crois, François, bonjour.
Bonjour.
Que vous n'êtes pas favorable non plus à ce pass sanitaire. Pourquoi ?
Alors, complètement. Non, parce que c'est pas ça. C'est que là, c'est encore des interdictions, c'est de la répression. Et on s'en va sur la dictature communiste, là. Les gens, ils s'en rendent même pas compte. Mais qu'on borde des masques dans un endroit...
Je vous assure, je vois bien qu'il y a certains thèmes, parfois, qui fait qu'il y a de la passion. Je vais vous faire lire Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, et vous allez voir que c'est un peu différent de la dictature communiste qu'on vit en France.
Mais il y a un début dans tout, monsieur Pro.
Généralement, les dictatures, ça commence plus fortement. Ça commence d'un coup, si j'ose dire.
Je suis d'accord avec vous. On a connu ça avec Hitler. Mais pour vous donner à comprendre quelque chose, l'État rentre trop dans notre vie. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Je ne comprends pas pourquoi que les Français se laissent faire. Vous arrivez pour respecter les gens quelque part, vous mettez votre masque, ce qui est normal, parce que il y a un gros problème. Mais là, quand vous avez, comment je vais vous dire, des vaccins qu'on sait, déjà, il y en a certains que c'est pas la joie, hein, on est bien d'accord, je suis pas là pour accabler les vaccins pour faire peur à la société. Mais ces vaccins-là, là, qu'est-ce qui nous dit qu'on les garantit plusieurs mois ? On ne connaît même pas la date, on ne connaît rien. Donc, indirectement, on n'est pas garanti à 100% non plus. Pourquoi se faire enlever de la liberté sur des choses qu'on n'est pas garanti à 100%? Vous voyez ce que je vais vous dire? Parce que là, ils ne peuvent pas le dire qu'on est à 100%. Hein. Quand on voit le... Vous savez, ils ont toujours une tendance, l'État, c'est-à-dire de nous infliger quelque chose. Ils ont mis la puce sous les chevaux, ils ont mis la puce sous la peau des chiens également. Mais on n'en est pas loin si on continue comme ça. On va y avoir le droit. Vous voyez? Moi, si jamais je veux aller à l'étranger...
Mais c'est intéressant, l'histoire des puces. Je vais vous dire un truc.
Ça va venir, si je peux vous le dire.
Oui, mais je veux dire quelque chose. Si moi, j'avais une puce, par exemple, dans l'avant-bras, et que cette puce permet, par exemple, d'être retrouvé si, par malheur, je me suis perdu. Par exemple, on ne sait pas, ou en montagne, ou pire solution, j'ai été enlevé, que sais-je, etc. Mais moi, je ne suis pas contre. J'assure, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Si ça peut aider, j'assure, je ne suis pas contre. Hein.
Mais la vie n'est pas faite pour qu'on soit sans le vie.
Oui.
Vous voyez ce que je vais vous dire. Attendez, il y a quand même.
Vous avez raison que je vous fais part de non pas de phobie personnelle, mais d'exemple. Non, mais je pense. C'est davantage à être perdu parce que en montagne, par exemple, on peut être dans une avalanche.
Oui,
un jour.
Mais là, c'est autre chose parce que attendez, il utilise une tenue, il met une puce dedans, ça c'est normal parce que ça dure pas la journée.
Vous avez eu des enfants, François ?
Comment ?
Vous avez eu des enfants ?
Oui.
Bon, est-ce que vos enfants, vous les avez fait vacciner quand ils étaient petits ?
Non.
Mais ils ont pas été. Mais c'est obligatoire, le BCG ?
Ah oui, les vaccins comme ça, oui, tout à fait.
Bah, les vaccins comme ça, c'est ça.
Oui, oui.
Donc, vous avez accepté le BCG, c'est obligatoire. Vous avez accepté, il y avait la polio, quand on était enfant, moi j'ai encore eu la variole qui a été éradiquée, mais moi j'ai été vacciné contre la variole.
Mais on est sûr à 100%, parce que vous êtes sûr à 100%, que, vous voyez, il faut des rappels. Maintenant, il en fallait deux, après il en faut trois, et pourquoi pas quatre. Et vous allez vous injecter combien de vaccins dans le corps ? Ça va finir par nous tuer, nous donner une autre chose.
Écoutez, visiblement, c'est trois vaccins qui étaient BCG, polio... Et variole, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça nous laissait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, des cicatrices.
Oui.
La variole.
Oui, mais là, c'était pratiquement obligatoire. Il n'y avait pas autre chose à faire.
Bah, c'était obligatoire,
François. Oui, mais d'accord, mais je suis d'accord avec vous. Mais là aujourd'hui, il y a autre chose à faire. On arrive, on a les masques, ça repasse bien la piqûre, si vous allez quelque part. Hein.
Donc vous avez 69 ans, par exemple, vous n'êtes pas vacciné.
Ah, contre le Covid, non.
Bon, et vous vivez en couple, François ?
Oui, comme ça, oui.
Bah comme ça, c'est.
En coupe moderne.
Oui. Comme ça, c'est curieux. Mais votre épouse, elle est plus jeune que vous, plus âgée que vous ?
Un petit peu, oui.
Un petit peu quoi ? Plus âgée ?
4 ans.
4 ans plus âgée que vous ?
Non, moins.
Et donc elle a 65 ans. Bon, elle est vaccinée ? Voilà.
Non, pas le Covid, pas pour le Covid. Tous les autres vaccins, oui.
D'accord. Donc vous êtes tous les deux. Bon, il n'y a pas de comorbidité peut-être chez vous. Vous êtes en pleine forme, vous faites du sport.
Oui, ça va, de ce côté-là, ça va. Mais on prend des précautions comme un peu la société en général.
D'accord.
Parce que vous savez, c'est bien beau de toujours trouver des excuses pour infliger quelque chose. Et l'État sait très bien le faire. Regardez au Parlement européen, ils vont nous enlever l'espèce pour la carte Visa. Cette fameuse puce. On est toujours dans les puces, vous voyez ce que je vais vous dire. Ça, c'est scandaleux de laisser la liberté...
Répétez ça, parce que je n'ai pas compris. On ne va pas pouvoir prendre de l'argent en espèces avec la carte Visa, dites-vous ?
Mais c'est pas ça, monsieur. C'est gratuit, l'espèce. La carte, c'est payant, monsieur. Ça rentre des milliards dans les banques.
Oui, mais je n'ai pas compris. Je vous assure, je n'ai pas compris.
Regardez, avec Christine Lagarde, le PDG de la carte Visa, la carte bleue, a été au Parlement européen pour infliger tous les commerçants de refuser l'espèce à ses clients. De quel droit que ce monsieur-là est en train d'infliger une chose pareille ?
La carte
à puce, ça va être pareil, et puis le système. C'est toujours des interdictions. Ils rentrent dans notre vie, ces gens-là.
Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs. Vous avez raison.
Bon. Il ne faut pas se laisser faire.
Mais j'entends aussi ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais faut trouver le moyen terme, comme on dit. Merci François, en tout cas. Merci François, et on va être avec Alain qui, lui, sera pour. Mais restez avec nous, tiens, comme ça on aura un petit dialogue. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, il y a une tonne d'appels au standard pour refuser ce pass sanitaire, et l'argument numéro un qui est donné, c'est « je ne veux pas me faire vacciner ». Attention, le pass sanitaire n'est pas lié qu'au vaccin. Si on a passé un test PCR ou antigénique rapide négatif, ou encore si on est immunisé après avoir contracté la maladie, ça peut faire partie du pass sanitaire. En fait, il y a trois possibilités. Le pass sanitaire atteste qu'une personne a été vaccinée contre la Covid-19, ou qu'elle a passé un test PCR ou antigénique, d'ailleurs rapide négatif, ou encore qu'elle est immunisée après avoir contracté la maladie. C'est important de le dire. François était avec nous, et nous allons être maintenant avec Alain.
Bonjour,
Alain, qui est chauffeur routier à Auxerre. Donc vous êtes favorable ?
Ah, moi je suis plus que favorable au passeport sanitaire. On voit, vous l'avez souligné tout à l'heure, Pascal, en Israël, la vaccination a été, ils ont été les champions du monde, et aujourd'hui, eh bien, ils sont les champions du monde dans le retour de leur liberté. Si vous l'avez dit, je suis conducteur routier. Je vois du monde, j'ai 55 ans. Je fais de l'apnée du sommeil, j'ai une surcharge pondérale, et puis je vous l'ai dit, j'ai 9 petits enfants. On sait que les gamins sont souvent porteurs, sont plus porteurs que les autres et sont asymptomatiques, ce qui fait qu'on a vite fait de contaminer une famille. On a pesé le pour et le contre avec ma compagne. Eh bien, écoutez, on a décidé. Moi, je suis resté à lui également. J'ai été cas contact et pendant 10 jours, je suis resté enfermé chez moi. Et je dis que non, ça, c'est pas possible. Et puis, mes libertés, je les aime trop. Ce pass sanitaire, c'est une formalité. Vous l'avez dit. Il y a aussi tous les autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et être inscrits dans ce pass sanitaire. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je fais des efforts pour ne pas contracter la maladie et donc pour ne pas contaminer d'autres personnes. Eh bien, comme l'a dit tout à l'heure lors d'un enregistrement que vous avez passé quelqu'un du ministère de la Santé, eh bien, ma foi, il y a des restrictions, les gens devront s'y plier, point à la ligne. Le passeport sanitaire n'est pas obligatoire, mais il faut savoir ce qu'on veut. J'entends le monsieur François d'avant qui dit « on nous inflige ceci, on nous inflige cela », mais oh là là, c'est grave à ce point-là. C'est très très grave. Un vaccin, tous les ans, on se fait vacciner pour la grippe. Je veux dire, c'est jamais la même souche. On se fait vacciner. On n'en fait pas toute une histoire. C'est rentré dans les mœurs. Eh bien là, on parle de la vie des gens quand même. On parle de nos libertés dans le monde entier. Moi, je crois qu'il y a des priorités à donner.
Alors Alain, ce que je vous propose, c'est que Cédric, qui habite Lyon et qui est commerçant, qui manifestement n'est pas sur votre position, peut-être vous répondre et pourquoi pas tous les deux entamer le dialogue. Cédric, vous avez écouté les arguments d'Alain. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. On nous prive de liberté en nous inscrivant dans ce schéma, puisque finalement, c'est un peu le début de la fin. On nous fait croire que tout ça est pour notre bien et pour retrouver des libertés, mais pour retrouver des libertés qui n'en seront plus. Enfin, si tous nos déplacements, si toutes nos sorties sont liées à ce passeport...
C'est pas toutes les sorties, Cédric. C'est certaines, c'est pas le restaurant, c'est pas le théâtre, c'est pas le cinéma, c'est certaines sorties. C'est la discothèque notamment, les grands rassemblements et les voyages.
Alors, moi je pense que la première étape, c'est effectivement les voyages, les grands rassemblements, concerts, spectacles et autres. Et puis la deuxième étape, ce sera les restaurants et puis la suite. Je crois qu'il faut être conscient que c'est une étape. On nous amène vers ce passeport sanitaire en nous expliquant que c'est pour notre bien et que c'est pour retrouver des libertés. Je pense que c'est juste l'inverse qui va se produire. Et puis l'auditeur précédent disait qu'on n'en fait pas autant pour la grippe. Non, c'est sûr, mais en revanche, pour ce Covid, on en fait beaucoup. Et on en fait beaucoup trop. Je pense qu'il faut simplement que les gens soient raisonnables. Et puis quand ils ont un rhume, le nez qui coule, quand ils se sentent pas bien, ils ne sortent pas et ils ne vont pas au stade. Enfin, comme on le faisait il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans... quand on avait une grippe ou quand on ne se sentait pas bien, on restait à la maison pour ne pas contaminer les autres. Et puis aussi parce qu'on ne se sent pas bien, donc on n'a pas besoin et envie de sortir.
Oui, mais vous savez très bien les arguments que je vais vous donner. Il y a les asymptomatiques, Cédric, il n'y a pas que des gens qui ne vont pas bien, etc. Mais on va continuer la discussion juste après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, ça divise hein, ce pass sanitaire. Et je vois que les deux camps sont inconciliables.
Et dans quelques instants, vous allez pouvoir faire dialoguer Cédric et Alain avec vous au 3210. Mais en attendant, nous attendons aussi sur d'autres sujets au standard. Nos élus sont-ils en danger ? Le maire d'Ouges, petite commune de Côte d'Or, 1500 habitants, a été violemment agressé, roué de coups par un groupe d'hommes. L'élu avait interpellé dimanche après-midi un jeune conducteur de quad pour lui demander de s'arrêter car il ne pouvait pas rouler sur ce chemin.
Le jeune homme, au lieu de rejoindre la route, a appelé des amis. 10 minutes plus tard, selon les dires du maire, 7 ou 8 personnes seraient arrivées à scooter et en voiture, armées de barres de fer. Le maire est frappé, il tombe au sol, reçoit un coup dans les côtes.
Le maire s'est vu prescrire 2 jours d'incapacité temporaire de travail. Vous êtes élu, vous sentez-vous en danger ? Avez-vous décidé d'arrêter vos fonctions ? Racontez-nous votre quotidien au 3210. Et une question qui revient, faut-il dénoncer les actes de délinquance après de nouveaux faits de violence à Rieux-la-Pape dans le Rhône ? Le maire LR de la commune veut créer une ligne téléphonique, une adresse mail pour que les habitants donnent des informations. Alors qu'en pensez-vous ? Bonne idée de départ pour Grégory sur nos réseaux sociaux, mais le problème c'est que ça peut rapidement basculer dans le grand n'importe quoi. Marie doute de l'efficacité. Regardez celles et ceux qui n'osent pas dénoncer leurs voisins coupables d'actes de maltraitance sur femmes et enfants. Et une nouvelle fois pour Thierry, laissons la police faire son travail.
Alors, on a un petit dialogue, un petit débat qui s'est mis en place entre Alain, chauffeur routier à Auxerre, 55 ans, qui est favorable au pass sanitaire, et Cédric, qui est commerçant à Lyon et qui dit... Au fond, ce n'est que le début. On met le doigt dans un engrenage. C'est-à-dire que pour justifier qu'il ne veuille pas prendre de passe sanitaire, il dit que ça commence par les grands rassemblements et puis ça finira par le restaurant. Nous sommes d'accord, Cédric. Ce qui est toujours curieux comme raisonnement, parce que par définition, on n'en sait rien. On n'en sait rien.
Alors, pardon, mais on n'en sait rien. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, puisqu'on sait très bien comment fonctionnent nos gouvernants. Et finalement, ça se terminera, je pense, comme ça. On nous propose ce schéma, on nous le martèle. Il y a une espèce de Jeux olympiques de la vaccinade dans le monde. C'est qui se fera vacciner le plus vite possible.
Mais parce que ça marche, que... Cédric. C'est ça qui est fou, quoi. Ça marche.
Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est un
Et vous ne savez pas. Israël, ça marche. Moi, je vous assure, je suis attaché vraiment aux libertés. Et vous savez, si vous nous suivez sur cette antenne, combien je trouve qu'on en a souvent trop fait. Sur la Covid.
Sur cette antenne et à la télé, effectivement.
Voilà, mais le vaccin, je constate que ça marche. J'y peux rien. D'ailleurs, c'est pas le mot. Mais pourquoi vous dites vous ne savez pas, Israël, quand même ? Est-ce qu'Israël remet en cause vos certitudes ?
Écoutez, moi j'ai entendu dire, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai entendu dire que un groupe était arrivé dans un restaurant à Tel Aviv, les vaccinés étaient passés à table normalement, avaient été reçus normalement, et les non-vaccinés étaient restés dehors et avaient été refusés.
Donc, c'est normal.
On nous explique que ça va bien, mais s'il s'agit de vivre ça dans les mois qui viennent, je ne trouve pas ça.
C'est normal, dit Alain. Pourquoi vous dites ça, Alain ? C'est normal ?
Ben parce que j'estime, Pascal et Cédric, j'estime que des gens vont faire un effort pour enrayer cette cochonnerie qui a quand même envoyé des gens au cimetière, faut pas l'oublier. Là, je pense à toutes ces familles qui sont concernées de près, même voire de très près, pour avoir perdu un proche, qui sont en train de vous entendre, cher Cédric, vous les faites bondir. Moi, personnellement, je fais l'effort, j'ai 55 ans, j'ai des petits-enfants, je me dis, au moins, si j'en meurs, j'aurais fait tout ce qui est nécessaire de faire. Lorsque vous dites vous êtes commerçant, monsieur, vous prenez bien la carte bleue de vos clients, ça vous dérange pas de prendre des informations sur vos clients. Là, vous êtes en train de faire un faux procès. J'ai l'impression que vous en voulez, enfin, que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement qui est en place, et tout ce que va entreprendre le gouvernement, c'est forcément... vous êtes très visionnaire, j'ai pu le noter, vous imaginez ce qui va se passer, vous prévoyez ce qui va se passer, vous le garantissez même, on vous l'a dit, vous ne l'avez pas vu, il faut, tous les pays du monde ne sont pas, on ne va pas traiter tous les pays du monde, de tous les gouvernants du monde de manipulateurs, on ne peut pas, monsieur, il y a un moment, il faut faire preuve d'un petit peu de lucidité, au moins aujourd'hui, évidemment...
Cédric vous répond. Avec cet argument quand même qui est intéressant, c'est qu'effectivement tous les gouvernements font la même chose.
Voilà, alors effectivement je pense que le plus lucide des deux, je pense que c'est moi, parce que je ne suis pas entré dans cette immense propagande et dans ce narratif dans lequel on nous amène chaque jour un peu plus et un peu plus loin avec un vaccin qui est un acte médical. C'est pas un doliprane, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous savez comme moi...
Mais dites pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, Cédric. C'est... Oui, non, mais pardonnez-moi de vous interrompre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, quand même.
Ouais. Non, je pense que personne ne le sait, puisqu'il a été autorisé provisoirement. Pour l'instant, il est autorisé jusqu'à la fin 2022. Les firmes pharmaceutiques elles-mêmes se sont retirées de la responsabilité concernant les effets secondaires qu'il pourrait y avoir. C'est quand même... Enfin, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose qui peut éveiller les gens. C'est pas rien, quand même. Ça veut dire qu'elles nous vendent un produit, elles veulent absolument que l'on se fasse vacciner, mais elles disent, s'il y a un problème, c'est pas moi, débrouillez-vous. Donc c'est quand même grave, enfin, je veux dire, moi je trouve ça grave.
Cédric et Alain, mais c'est passionnant parce que de vous écouter, parce qu'effectivement, je pense que Cédric, il y a beaucoup de gens, souvent je dis ça, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, et c'est pour ça que cet avis est intéressant. de ce point de vue-là. Et il va se poursuivre d'ailleurs ce petit débat, si vous le souhaitez, après la pause. Et puis on conclura peut-être, il y a Jean-François également qui est pour le pass sanitaire, qui habite Bordeaux. On parlera ensuite d'autres sujets, car il y en a d'autres aujourd'hui. Il y a Manuel Valls, par exemple, qui rejoint la France. Est-ce que ça vous interpelle? Il y a les confessions d'Anne Sinclair, 10 ans après l'affaire DSK. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que vous avez envie de parler de ce qu'a subi le maire d'Ouge? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je n'aime rien tant que lorsque les vedettes de la station passent par notre studio, n'est-ce pas Laurent?
Ben,
que nous
adore.
Les accueillons avec plaisir. Parfois c'est Cyprien Sini, parfois c'est Laurent Marsic. Et aujourd'hui c'est l'excellent Thomas Soto qui est là. Parce que Thomas, ce soir...
Bonsoir madame.
Bonsoir madame. Mais vous êtes d'humour, dis-donc.
Non.
Et, comment dire, ce soir vous recevez Patrick Bruel.
Oui, parce que Pascal, on aurait pu se dire tout ça... ailleurs qu'au café d'en bas. Vous allez peut-être partir, peut-être même pas revenir.
Bon, en tout cas, mais pourquoi vous le recevez? Il a fait un film formidable.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on le reçoit?
Oui.
Oh, c'est pour toi. Je l'ai écrite pour toi, c'est la Pascal. T'es imbriqué? Sont dérisoires.
J'adore cette chanson.
Vous savez pourquoi je le reçois? Et pourquoi on le reçoit? Parce qu'on en a envie. Parce que ça nous fait plaisir. Et il va être là, il va venir parler de son film Villa Caprice qui sort dans une huitaine de jours. Et puis, lui, il a envie aussi de partager avec les auditeurs. Donc, il va venir avec sa guitare dans ce studio. Il va être avec nous de 18h30 à 20h. C'est plus le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que le voit Patrick Bruel. Et il va jouer. Et puis, il va répondre à vos questions au 3210. Donc, vous nous appelez, réseaux sociaux, tout ça. Et vous serez en direct avec lui. Voilà.
Vous lui parlerez de football?
Bon, évidemment.
Du Paris Saint-Germain. Il doit être quand même extrêmement déçu.
Il doit être un peu deuxième, là, quand même.
Non, et puis, peut-être de politique aussi, parce que le moment est particulier.
Vous savez, comme à chaque fois, j'attends que vous m'envoyiez les questions.
Non, mais je crois que les auditeurs, surtout, vont lui poser les questions.
Les auditeurs, ils lui posent les questions qu'ils veulent. Voilà, c'est un échange libre, c'est un échange respectueux, c'est un échange musical. Ouais. Et ça sera un moment de plaisir. C'est à partir de 18h30. Il y aura Philippe Cavrivière qui va donner son regard sur Patrick Bruel. Donc ça va forcément être intéressant. Il y aura la culture de l'actu. On parlera des Caprices, puisque c'est Villa Caprice, son film. Et puis il y aura vous, 3210, vous nous appelez et vous parlez avec Patrick Bruel.
Et puis il y aura peut-être une petite imitation de Laurent Gérard également.
Je ne sais pas. Je ne peux pas tout vous dire.
Quelques musiques de. Quelques notes.
Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux.
Vous êtes sympa en vrai, disons, Pascal.
En vrai, je vois que Victoire de Rexin.
Oui, Victoire.
Oui, j'ai dit quoi?
Victoire.
Oui, Victoire de Rexin est une fan de Patrick Bruel, donc elle s'agite en régie. Et... Donc mais c'est 18h30, c'est... 20h.
Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images.
Très fort, Caron.
Sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Allez, je m'en vais. Merci, à tout à l'heure.
Merci, Thomas. 32-10. Thomas qui imite également Gilbert Bécaud, mais ça sera pour une autre fois.
Je crois qu'on connaît ce titre.
13h43, Laurent Tessier, dites-nous tout.
Alors, vous pourrez réagir aux confessions d'Anne Sinclair. 10 ans après l'affaire DSK, dans un entretien à l'hebdomadaire Elle, j'étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Était-ce de l'emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l'acceptation. Je veux que l'on comprenne que je ne savais rien des comportements de mon mari. Vous pourrez nous appeler dès maintenant au 3210. Manuel Valls a annoncé son intention de quitter ses fonctions de conseiller municipal à Barcelone.
C'est jeune.
Cyprien Signy, on a parlé dans son surf ce matin. Manuel Valls et ses propos. Maintenant, je sais que je suis majoritairement français dans mes valeurs, dans ma façon de penser, de faire de la politique. Bon là, réagit Jeanne sur la page Facebook de l'émission à un moment donné. Monsieur Valls, il faut choisir entre la France et l'Espagne. Il faut arrêter les allers-retours, écrit Patricia. J'ai comme l'impression, nous dit Benoît, que Manuel Valls se retourne sa veste. Je dis ça, je dis rien. Elisabeth n'est même plus surprise par les politiciens. Et pour Thierry, dire qu'il a été Premier ministre lundi, on fait comme ça. Mardi, je change. Un jour, je suis français. Le lendemain, l'Espagne a toujours été mon pays. Bref, on n'y comprend plus rien.
Bah, c'est vrai, peut-être qu'il y a un rapport entre le fait qu'il n'a pas réussi à être élu en Espagne, peut-être, et à Barcelone. Bon, Cédric, j'avais une petite question taquine à vous poser. Est-ce que vous fumez?
Oui. Non.
Parce que quand on fume, on ne sait pas toujours ce qu'on fume de la même manière. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, vous voyez. Quand vous dites le vaccin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça me surprend toujours, pour tout vous dire. Mais bon... Après, c'est votre choix et votre liberté, hein, bien sûr. Mais en fait, cette défiance me surprend souvent parce que Combien de gens sont vaccinés dans le monde? Vous vous rendez compte qu'on est à 23 millions de gens qui sont vaccinés en France.
Oui, mais
je vous assure que s'il y avait un problème, on le saurait quand même depuis belle lurette.
Mais non, justement, je pense qu'on va le savoir un peu plus tard.
Mais vous pensez quoi? Que les gens qui ont pris le vaccin, il va avoir des cornes qui vont leur pousser sur le front, qui vont tous terminer, avec des maladies improbables?
Je ne sais pas. Il n'est pas exclu qu'il y ait des effets secondaires, puisque les firmes elles-mêmes ne le savent pas et ne le garantissent
mais
pas.
Mais des effets secondaires, paraît-il, c'est tout de suite ou jamais?
Pas forcément.
Vous dites pas forcément, les spécialistes disent un effet secondaire c'est tout de suite ou jamais.
Enfin les spécialistes pro-vaccin, mais moi je ne suis même pas anti-vaccin, c'est pas le problème. Le problème
je me demande ce que ça doit être un anti-vaccin. Or si vous ne l'êtes pas, Cédric...
Ça doit être un choix de pouvoir avoir envie de se faire vacciner.
Alors ça vous avez raison, bien sûr que vous avez raison.
Mais là on est obligé de le faire.
Mais parce qu'autrement on fait quoi? C'est-à-dire que Cédric, si... c'est quoi votre solution?
Eh bien, c'est vivre tout à fait normalement. Enfin, vous le savez très bien comme moi, pour vous regarder tous les soirs et vous entendre écouter les arguments de votre...
Oui, mais sur celui-là, vous voyez, franchement, je me suis rangé au vaccin.
Eh oui, mais l'idée, c'est quand même de vivre tout à fait normalement. Cette pandémie n'a pas fait beaucoup de morts, pour ne pas dire peu, même si un mort est un mort de trop, on est bien d'accord. Mais c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la pandémie, j'allais dire, du siècle avec...
Non, mais c'est pas Ebola, vous avez raison.
Voilà. C'est pas Ebola. Vivons normalement et n'en faisons plus une affaire.
Est-ce que Jean-François veut vous répondre, par exemple, qui est pilote de ligne et qui vous écoute? Jean-François, qui est pour le pass sanitaire. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Cédric? Bonjour Jean-François.
Bonjour Pascal. D'abord moi je trouve qu'on a fait, au niveau scientifique, ça a été une prouesse absolument extraordinaire. En 9 mois, on a réussi à faire plusieurs types de vaccins. Les études ont été menées correctement. Ces vaccins aujourd'hui fonctionnent. Je comprends que les gens puissent avoir peur, hein, mais tout à l'heure Cédric disait qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le vaccin, que ce n'était pas un Doliprane. Mais est-ce qu'il peut me dire ce qu'il y a dans le Doliprane? Je pense que les gens prennent des médicaments aujourd'hui. Moi, mon père était médecin. Moi, je ne suis pas pro-médicament. Moi, j'en prends, mieux je me porte. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui prend un médicament tout à fait basique peut faire une réaction et mourir sur place avec un choc anaphylactique. Mais ça, les gens n'y pensent pas. De la même manière, les thromboses dont on a beaucoup parlé sur l'AstraZeneca, effectivement, il y en a eu. Ça a été un des effets secondaires. Mais combien de cas de thrombose pour combien de millions de doses? Est-ce qu'on a en France le nombre de thromboses qui sont créées chez la femme qui prend la pilule et qui fume en même temps?
On n'a pas de statistiques, mais c'est vrai que les thromboses, ça reste évidemment à la marge. Une nouvelle pause, et puis on parlera de l'agression du maire. On conclura évidemment avec Jean-François et Cédric sur ce débat du pass sanitaire qui nous anime depuis 13h05. Et Damien Béchiot, je le salue à nouveau.
Bonjour Pascal.
Il nous a fait écouter quelques notes de musique, et c'était bien agréable pour apporter un peu de légèreté.
Et de douceur.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
4, 3, 2, 1, 0. C'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Et je rappelle que Patrick Bruel sera ce soir entre 18h30 et 20h en direct avec Thomas Soto. Vous pouvez appeler Thomas, vous pouvez appeler Patrick pour lui poser des questions. Ça va être un moment formidable. Il vient avec sa guitare. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Jean-François et Cédric, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous dans 10 ans, tous les trois, pour parler des conséquences de la Covid et du pass sanitaire. Jean-François et Cédric?
Je pense que d'ici un mois, on y verra beaucoup plus clair et on reprendra ce que moi j'appelle une vie normale. Cédric disait qu'il fallait vivre, on pouvait continuer à vivre normalement. On fait tous vivre normalement depuis un an. Je suis désolé de voir mes parents avec un masque, au travail porter un masque dans mon poste de pilotage, ne pas aller au restaurant, c'est tout sauf normal.
Vous êtes avec le masque quand vous pilotez?
Exactement, c'était une mesure qui a été décidée, puisqu'on est quand même très proche avec le collègue, donc on est obligé de piloter avec un masque.
Mais vous n'avez pas de test pour entrer dans l'avion?
Pour l'instant, non. Alors apparemment,
c'est ça qui est peut-être étonnant quand même. On pourrait imaginer que vous en ayez un quand même avant de piloter.
Ça veut dire qu'on fait des vols tous les jours. Il faudrait faire un test tous les jours si on veut être vraiment dans les clous. Donc là,
moyen courrier, long courrier.
Moyen courrier.
D'accord. Bon bah écoutez, vous n'avez pas eu trop de job en plus. J'ai l'impression cette année, puisque beaucoup d'avions étaient.
On a fait plus de jardinage que de pilotage.
Ah oui, j'imagine.
Voilà, bon, ça reprend, c'est très bien.
Bon, bah merci Jean-François. Cédric, le mot merci de la fin pour vous ?
Ben, moi, je trouve qu'il faut être prudent par rapport à tout ça et s'accommoder de toutes ces restrictions et toutes ces privations de liberté. Je trouve ça vraiment... Enfin, je trouve ça dur, je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Et on nous entraîne dans cette société où on va devenir d'une manière un peu perpétuellement contrôlée sous ce prétexte sanitaire. Et les gens acceptent ça. Je trouve ça triste et je trouve ça grave. Je pense qu'il faudrait être un petit peu plus éveillé et puis se poser les bonnes questions et puis ne pas suivre toutes ces recommandations comme des moutons sans même se projeter sur les mois et sur les années qui viennent.
Bah écoutez, il y a un sujet qui peut aller avec ce que vous dites et qui va à mon avis monter ces prochaines heures, c'est le sujet de l'argent liquide qui va disparaître ou que certains veulent faire disparaître pour nous tracer d'une certaine manière. Hein, donc ça, j'imagine que ça va exciter, pourquoi pas, les auditeurs ou certains auditeurs. Parce que si, effectivement, on oblige tout le monde à payer en carte Visa ou en carte de crédit...
Je peux vous dire qu'en tant que commerçant, j'y suis confronté pratiquement tous les jours et surtout depuis un an. Les gens ont peur de toucher les cartes, ont peur de toucher les billets, ne payent plus quand sans contact. Enfin, ça rend les gens fous. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Ça rend les gens paranoïaques.
Merci.
Cette histoire.
Merci beaucoup, Cédric. Il est 13h54, nous changeons de sujet.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, le maire d'Ouges. Alors, Ouges, c'est O-U-G-E-S. Le maire d'Ouges, commune de Côte d'Or, a été violemment agressé, roué de coups par un groupe d'hommes. Il interpellait un jeune conducteur de quad. Si vous êtes maire, peut-être que vous vous sentez en danger. Est-ce que vous avez décidé, pourquoi pas, d'arrêter vos fonctions ? On va être avec Didier, bonjour, qui précisément est maire. Et vous êtes maire...
Bonjour, Pascal.
Bonjour. Vous êtes maire de Fontvannes, dans l'Aube ?
Oui, de Fontvannes dans l'Aube, un village où sort la source Lavanne et qui alimente nos amis parisiens pour 25%.
Ah bon ?
Oui, et oui, Pascal.
Ah oui, effectivement. C'est combien d'habitants, Fontvannes ?
Fontvannes, c'est 740 habitants. Vous
êtes maire depuis combien de temps ?
C'est mon quatrième mandat. J'ai commencé en 2001 et j'avais démarré antérieurement sur un poste de conseiller d'adjoint.
Bon, quel est le moment le plus violent que vous avez vécu depuis un mandat, c'est 6 ans a priori.
Oui.
Donc 6 x 4, 24. Donc bon, déjà, depuis plus de 20 ans.
Je voudrais rendre hommage à tous mes collègues. Moi, je suis comité directeur des maires de France. Et rendre hommage à tous mes collègues qui remplissent cette mission et qui représentent effectivement l'autorité locale dans leurs fonctions. Alors, moi, j'étais jeune maire. Hein, c'était sur un événement de 14 juillet. Où l'alcool avait fait quelques méfaits, et pas celui conservé, puisqu'il y avait un groupe de jeunes qui avaient amené ce qu'il fallait dans les sacs à dos, on n'avait pas vu. Et puis c'est parti un peu en vrille, si je peux dire, entre nos jeunes, les pompiers. Et il y a tout un attroupement qui s'est créé autour de moi. Bon, certains m'ont averti, et je me suis mis devant la porte de la mairie, puis je suis maintenant, c'est simple, vous rentrez dans la mairie, je suis devant la porte, vous rentrez, et on se parle un par un. Bon, puis là, les pompiers sont arrivés, un groupe s'est constitué, donc... C'est vrai que la difficulté qu'on peut avoir, et on peut le comprendre dans pas mal de situations, c'est qu'à l'échelon local, en fait, on reste la seule personne qu'on connaît véritablement, avec qui on a aussi connu les enfants, on connaît la famille, on est toujours là quand il y a besoin, dans toutes les situations. Tantôt c'est des joies, tantôt c'est des grandes tristesses. D'ailleurs, dans l'Aube, on a perdu une collaboratrice au département qui a été tuée par un ancien, dans une grande détresse, la pauvre a pris un coup de fusil, a perdu la vie à 35 ans. Donc, moi, ce qui me préoccupe vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est cet état de violence qu'on a tendance un peu à entretenir et dans lequel les personnes se mettent. Et effectivement, quand on est dans ces situations de fort mal-être, c'est l'autorité qui trinque et les maires sont en première ligne. Hein. Mais les maires, comme nos collègues aussi de la fonction publique, je veux dire, on fait le même job, nous sommes des fantassins, je dirais, de l'État.
Hein. On va continuer cette conversation après le flash et que vous soyez des deux côtés de la barrière, j'ai envie de dire, ou administrés ou maire, appelez-nous et donnez-nous votre sentiment sur ce sujet qui effectivement nous inquiète. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À la seconde près, il est 14h. On va continuer la discussion sur la mairie ou les maires qui sont agressés. Mais pour le moment, c'est le flash avec Hortense Crépin.
La Russie, principal allié du président biélorusse Loukachenko, regrette que l'UE veuille contourner l'espace aérien du pays. Plusieurs compagnies comme Air France ont fait cette annonce. Dans le même temps, l'opposant, arrêté dimanche, est apparu affaibli dans une vidéo où il formule des aveux visiblement sous la contrainte. À l'Assemblée, lors du vote pour le projet de loi de confiance dans la justice, le texte porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, comprend notamment la fin des réductions de peines automatiques ou encore des droits renforcés dès l'enquête préliminaire. La gauche devrait voter contre ou s'abstenir, tout comme le RN. Les députés LR, eux, doivent encore décider de leur positionnement. Le 39-19 sera accessible 24 heures sur 24 à compter de la fin août. Une mesure réclamée depuis des mois par des associations. La plateforme est destinée aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. La joie des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris. Après 22 mois de grève, elles viennent de signer un accord et obtiennent notamment une augmentation de salaire et une baisse des cadences de travail. La hausse du tarif du gazole non routier servant notamment dans le bâtiment et les travaux publics prévus au 1er juillet est repoussée à 2023, annonce aujourd'hui du gouvernement. Et puis la réponse d'Israël sera très puissante si le Hamas viole le cessez-le-feu. Déclaration du Premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a démarré une tournée au Proche-Orient. Il doit aussi s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les États-Unis qui veulent éviter que le Hamas bénéficie de la reconstruction de Gaza. En football, l'Allemagne connaît le nom du futur sélectionneur de l'équipe nationale. C'est l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à cette saison, Hansi Flick. Un contrat signé pour 3 ans. Le temps s'est instable avec du vent au nord de la Loire et des averses. Au sud, un temps plus calme, du soleil près de la Méditerranée avec un vent assez fort. Les températures, 13 degrés à Brest, 14 à Lille, 16 à Paris et 20 à Marseille. Les courses à Longchamp, la combinaison gagnante, 2, 4, 3, 15 et 9. 14h02 sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Didier, qui est maire de Fontvannes, et effectivement, nous évoquons ce maire d'Ouge qui a été agressé. Vous êtes maire depuis 24 ans, même si parfois ça a été compliqué. Vous n'avez pas été dissuadé de ne pas prolonger votre mandat de maire.
Non, bah, ça, en fait, compte un engagement pour la République, je dis bien, pour servir la cause locale, faire en sorte qu'il y a la sérénité, il y a la tranquillité publique, amener toutes les conditions du bien-être, si tu veux, des administrés de ton territoire. C'est une forme de foi, il faut dire la vérité. C'est comme un président d'association, je dirais. On est dans le même registre. Alors, effectivement, il y a des moments de difficulté. Il y a des moments de grand bien-être. Tu vois, quand tu crées un établissement qui accueille 40 personnes en situation de handicap, quand tu crées une école où tu n'as que 140 enfants, avec une cantine, des espaces pour le temps sportif, le temps musical et le temps d'éducation, là, il y a des grandes joies. Puis il y a des moments de grande difficulté, c'est vrai, que ce soit pour des débordements, j'irais sur la voie publique, hein, par la cause de la vitesse. Hein. J'ai un village qui est traversé par une route à grande circulation, ou même dans le village, ça arrive aussi. Hein. Et puis il y a ce sujet aujourd'hui de violence, mais encore une fois, qui est, à mon sens, les maires sont en première ligne parce que c'est l'autorité par moment qui est remis en cause. Mais il y a une forme de mal-être, hein. Je pense qu'il va falloir aussi solutionner et ramener les gens à la société. C'est un espace de vie collective. Il faut accepter qu'on y vit avec des règles et du respect.
Merci Didier. Je peux la répéter. Merci de ce message. Toujours sur l'agression du maire d'Ouge, nous sommes avec Nadine. Et Nadine, vous êtes maire également de Saint-Nolf, c'est bien cela ?
Oui, bonjour.
Avec un N comme Nadine.
Avec un N comme Nadine.
Parce qu'il y a également Saint-Molf, qui est dans la région, je pense, de Loire-Atlantique.
Non, mais là, c'est Saint-Nolf, territoire de festival.
Exactement.
Connu pour son festival.
Voilà. Alors, vous êtes maire depuis combien de temps ?
Alors, depuis 2014, j'entame mon deuxième mandat depuis un an.
Bon, est-ce que vous avez été victime d'une violence ?
Alors, je n'ai pas été victime de violence, mais on peut pas quand même parler d'agressivité verbale. Et quelquefois, il faut savoir bien mesurer la teneur du comportement et des propos en face de soi pour faire baisser la tension et puis ne pas aller jusqu'à une agression qui serait évidemment le summum et de l'inacceptable.
C'est combien d'habitants Saint-Nolf ?
On touche les 4000 habitants maintenant.
Bon, et les agressions verbales, elles sont régulières ?
Alors, elles ne sont pas régulières, mais comme le disait la personne qui intervenait avant moi, c'est un refus de l'autorité. C'est quelquefois aussi la contestation de votre élection. On remet en question quelqu'un qui n'a pas voté pour vous, va contester votre légitimité. Et là, c'est oui, le refus de l'autorité et de dire que vous n'avez pas le droit d'imposer des règles, même si elles sont nationales, même si vous êtes là en tant que représentant de l'État pour faire valoir toutes les règles à appliquer. Il y a de la contestation et automatiquement, la première personne en face, c'est le maire ou ses adjoints. Personnellement, moi, ce sont mes adjoints que j'ai eu à protéger parce qu'ils avaient des visites à domicile et des visites qui étaient agressives. Et mes adjoints ont pu se sentir par moments mis en difficulté et dans leur domaine de compétences.
C'est combien de conseillers municipaux, une ville comme Saint-Nolfe ?
On est 27. On est 27 et selon les taux de participation, on est à 21 élus de la majorité et 6 élus de la minorité.
Et vous êtes sans étiquette sur un...
Oui.
Généralement,
depuis
c'est ce qui se passe.
C'est une liste ouverte de gauche à droite en passant par le centre et très peu de personnes encartées. Pour la plupart, on ne savait même pas qui était quoi au moment où on composait notre liste. Simplement la volonté de faire avancer notre commune et puis d'œuvrer pour le confort de tous et l'amélioration de nos services et tout ça.
On peut rappeler l'indemnité que vous percevez pour vous occuper d'une ville de 4000 habitants ?
Alors, je ne perçois pas l'indemnité totale parce que je ne suis pas à 100%. Ça ne me permettrait pas de vivre décemment. Donc, je mène aussi mon activité professionnelle à temps partiel. Et je perçois une indemnité de 1300 euros par mois en tant que maire.
Et c'est combien d'heures dans une semaine ?
On compte pas les heures. Il y a des heures, il y a des jours, les week-ends. On compte pas les heures. Quand il faut y être, on y est.
Faut avoir la foi.
Après, on a choisi. Oui. Après, on a choisi. C'est riche de beaucoup d'enseignements et de rencontres. C'est ça que je retiens. Moi, c'est une expérience que je n'imaginais pas vivre et qui est magnifique.
Bravo. Mais cet engagement, par exemple, vous le tenez d'où ? Vous êtes né à Saint-Nolfe ?
Non, je suis pimpolaise.
Donc,
je suis pimpolaise, donc dans les Côtes d'Armor. Terre de festival aussi et je le tiens d'où simplement d'avoir des parents, des grands-parents qui s'investissaient dans la vie locale, vie associative pour la plupart et l'envie de toujours participer parce que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Si on ne participe pas, rien ne se fait. Et voilà. Donc
vous êtes une femme engagée. Alors on va terminer peut-être par comment s'appellent les habitants de Saint-Nolfe?
Ils s'appellent les Nolféens et les Nolféennes.
Les Nolféens et les Nolféennes. C'est joli. D'abord, c'est très joli, Saint-Nolfe.
Et c'est une très jolie commune.
Écoutez, dans le Morbihan, qui est un département
proche
merveilleux également.
Proche de Vannes, on touche Vannes. Donc voilà, on a la mer, on a la terre qui se côtoie.
Ah oui, vous êtes côtier.
Oui, non, on a vu sur mer de certains endroits. Mais on touche Vannes, et donc à Vannes, il y a la mer.
Merci beaucoup, vraiment Nadine. Merci de ce témoignage et de cet engagement. Il est 14h08, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Véronique et nous changeons de sujet avec une question. Faut-il dénoncer les actes de délinquance après de nouveaux faits de violence à Rieux-la-Pape ? Le maire de la commune veut créer une ligne téléphonique pour que les habitants donnent des informations. Qu'en pensez-vous ? Il y a quelque chose de l'ordre de la délation peut-être. Véronique, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Oui, puis à mon avis, les standards ils vont exploser.
Hein. Oui, c'est ça qui peut...
on sait bien que de toute façon, on l'a vu pendant la guerre, on voit les impôts, ils n'ont pas besoin de faire des recherches, c'est la délation qui vont à droite à gauche faire des enquêtes. C'est évident. Chacun va se venger du voisin, on sait ce que c'est. Hein. C'est vrai qu'il faut trouver une solution, c'est évident. Il y a trop de délinquance. Alors, ce qu'il faudrait peut-être, c'est commencer par déjà... punir tout ce qui est incivilité, ce qu'on n'appelle pas encore délinquance, mais ce qui est incivilité, parce que l'incivilité, à force de ne pas être punie, arrive à la délinquance, et puis appliquer les lois. Alors quand on peut appliquer les lois, parce que des fois il y a des lois où malheureusement quand on voit là le gars qui avait un bracelet électronique qui a tué sa femme, comment il a fait pour rapprocher sa femme alors qu'il avait un bracelet électronique, enfin on se demande. Peut-être aussi avoir des gens autour pour pouvoir effectivement faire appliquer les lois et faire en sorte que quand il y a des délinquants qui passent en dehors des radars, qu'on sache où ils sont, quoi. Mais je pense pas, on va monter les gens les uns contre les autres. Alors, diviser pour mieux régner, c'est connu, hein, ça on sait.
Oui, là, je pense que c'est pas le but là, du maire de Rieux-le-Pape. Il aimerait simplement que ce soit efficace, forcément.
Non, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas son but. Mais si on met ça en place, le but, ça va faire que monter les gens les uns contre les autres. Donc, ça n'a aucun intérêt. L'utilité par rapport à la nuisance, à mon avis, ne va pas être là.
Donc c'est une proposition qui permettra anonymement aux habitants de dénoncer des faits ou des personnes, et ça va être concret ces prochains jours.
Oui, mais c'est à mon avis, c'est encore un truc qui va servir à rien, qui va utiliser du personnel qui pourrait être utilisé pour autre chose, et ça va être encore un coup d'épée dans l'eau. À un moment donné, comme vous dites souvent, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il y a des lois, on les applique, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, on ne fait pas. Et on commence, puisque maintenant les parents sont démissionnaires, on commence jeune. On n'a pas le droit. La maîtresse dit non, c'est pas aux parents de venir en disant « Ouais, vous avez dit ça à mon fils, machin. » Non, la maîtresse, elle a autorité. Quand elle dit c'est non, c'est non. Les parents, ils viennent pas pour venir derrière plaindre le gamin, etc. Et après, un gamin qui jette un papier dans la rue, moi, je les reprends. Maintenant, je les reprends pas parce que malheureusement, la peur a changé de camp. C'est les gens bien élevés qui ont peur et les mal élevés qui maintenant, ont la loi sur tout le monde. Avant, je les reprenais en disant « Hey, t'es gentil, mais t'as une poubelle, là. »
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on hésite parce qu'on est contaminé par ce qu'on écoute. Et on se dit, si le gosse de 12 ou 13 ans à qui je fais cette réflexion, s'il a, pourquoi pas, un couteau dans sa poche, il va le sortir.
Pas parce qu'on est contaminé, Pascal, parce qu'on a la réalité de la violence et qu'on la voit tous les jours.
Tout le monde n'a pas de couteau dans sa poche, vous voyez, c'est bien évidemment. Mais en fait, on applique une sorte de principe de précaution, comme ça, on est...
On en a de plus en plus. Moi, j'ai regardé dernièrement une émission à Bordeaux, où ils ont à peu près 80 jeunes entre 14 et 16 ans qui ont débarqué, on ne sait pas d'où, et comme ils disent, ils ont des lames. Quand quelque chose leur plaît pas, tac, un coup de lame. Ils peuvent tuer quelqu'un, défigurer quelqu'un, parce que on leur a dit quelque chose qui leur a pas plu, ou parce qu'on les prend en train de voler un téléphone. Donc aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est qu'il faut que les parents, élèvent leurs enfants, ce qu'ils font plus. Hein, beaucoup, il y en a qui les élèvent très bien, mais il y en a beaucoup qui sont complètement démissionnaires, parce que attention, ils sont pas toujours responsables, parce qu'ils sont dans des conditions de vie catastrophiques, parce que il y a de la violence à la maison, donc les enfants répètent. Donc tout ça, il faut s'en occuper. Tous ceux qui arrivent chez nous et qui viennent de pays où effectivement il y a de la violence, où il y a de la violence envers les femmes, parce que les femmes sont toujours sous la coupe de l'homme, donc ils supportent pas en France de voir des femmes avec des mini-jupes, de voir une femme qui allait un enfant. Donc ça, c'est pareil. Quand ils arrivent chez nous, il faut leur apprendre que chez nous, c'est des choses qu'on accepte. Qu'une femme a le droit d'être en short, en mini-jupe et d'allaiter dans la rue. Ça évitera aussi des violences. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, à faire en amont avant de passer sur on dénonce son voisin, on dénonce... parce qu'à mon avis, ça va être rempli de trucs. On va avoir sans appel pour un truc important.
Merci vraiment beaucoup Véronique, merci de ce témoignage. Il y avait un très beau livre qu'avait écrit Pierre Assouline qui s'appelait La Cliente. Il avait enquêté, c'était un roman, mais il avait beaucoup enquêté sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Et notamment, dans les archives, il y a toutes les lettres de dénonciation qui ont été écrites. En fait, c'est terrifiant ce qu'a fait, ce qu'ont fait les Français durant cette période, et c'est terrifiant. Merci beaucoup Véronique, vraiment. On va marquer une nouvelle pause et on va terminer cette émission avec Manuel Valls, qui aimait tellement l'Espagne qu'il était allé à Barcelone, et puis maintenant il aime tellement la France qu'il quitte Barcelone. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Manuel Valls a annoncé son intention de quitter ses fonctions de conseiller municipal à Barcelone. Mon temps de conseiller municipal est révolu. Je vais bientôt rendre ma démission publique, explique-t-il dans le journal El Mundo. Cette décision en prendra acte en septembre prochain. Désormais libéré de tous ses engagements politiques à Barcelone, l'ancien Premier ministre a réévalué sa situation vis-à-vis de la France. Maintenant, je sais que je suis majoritairement français dans mes valeurs, dans ma façon de penser et de faire de la politique. Visiblement, il ne le savait pas avant. Il a quand même été Premier ministre de la France. Parfois, on se pince quand même. Un ancien Premier ministre qui dit « Maintenant, je sais que je suis majoritairement français ». Il ne le savait pas, mais il était quand même Premier ministre. Abdelatif, bonjour.
Bonjour Pascal Pro, vous êtes très ironique, monsieur.
Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il a le droit de dire je voulais être maire de Barcelone, j'y suis pas arrivé, je reviens et j'ai perdu, etc. Mais pourquoi personne ne peut penser ce qu'il dit, c'est ça
qu'il... Alors, justement, moi je ne vais pas être ironique.
Et je le trouve sympathique, d'ailleurs, j'ai rien contre lui. Hein. Franchement, je le trouve plutôt en plus sympathique et sur une gauche. Pour tout vous dire, une gauche républicaine, cette gauche républicaine, elle nous manque. Parce qu'il incarne une gauche du passé et qui n'est pas une gauche indigéniste, qui n'est pas une gauche islamo-gauchiste, donc est plutôt c'est la gauche romantique de la Commune et de Victor Hugo.
Bon, écoutez, moi je dis d'abord bienvenue, bon retour à M. Valls. Et moi je ne suis pas étonné pour la simple raison que M. Valls ne s'est jamais habitué à sa constance politique. M. Valls, c'est la personne qui était au début au Parti Socialiste dans l'aile gauche du Parti Socialiste. Et il est devenu dans l'aile droite au bout de quelques années. Et il a changé sa position sur le conflit israélo-palestinien, puisque je me rappelle qu'en 2008, il a planté des oliviers à Ivry pour les Palestiniens. Il y a quelques années après, il est devenu un inconditionnel d'Israël. Après, il a tout simplement essayé de devenir président de la République. Il n'a pas réussi, puisqu'il a perdu les élections internes du Parti Socialiste. Et il a appelé à voter Emmanuel Macron. Et par la suite, il démissionne de son mandat de député pour aller pour une aventure en Espagne. Alors, si vous voulez, moi j'entends personne le critiquer, du moins dans le cercle politique, personne ne le critique sur cette inconstance. Sauf que lui...
S'il est un petit peu attaqué quand même, un peu moqué quand même, mais...
Un petit peu. Sauf que lui, il ose quand même reprocher à certaines personnes en France ce que lui il fait. Par exemple, en tant que Premier ministre, il a demandé à ce que Benzema ne soit jamais sélectionnable parce qu'il n'aimait pas la France, parce qu'il ne chantait pas la Marseillaise, parce que ceci, parce que cela. Or, il a même contesté le retour de Benzema. Alors, ils reviennent en même temps, c'est très bien, c'est vraiment deux belles reprises, finalement. Eval, c'est Benzema en même temps, c'est super.
C'est de retour. C'est vous qui êtes ironique, là, du coup. Bon, comme il nous reste 2 minutes et que Jacques attend également, je voulais. J'aime pas laisser un auditeur qui attend depuis un petit moment. Donc, Jacques, le retour de Manuel Valls, qu'est-ce que ça vous fait dire ?
Parce que moi, je vais être ironique. J'ai cru que c'était un 1er avril.
Mais encore.
J'ai cru que c'était une farce. Non, mais Monsieur Valls, il faut arrêter avec cette vieille politique. Il est parti en Espagne, ça marche pas là-bas. Il revient chez nous. Mais c'est tout et n'importe quoi. On en a marre de ce mec.
Ce mec. Il a été Premier ministre de la France. Pardon, voilà.
Excusez-moi. Mais je sais pas qu'il aille bosser dans le privé, qu'il aille bosser un petit peu. Il sait faire que ça, la politique. En plus, il faisait de la bonne politique. Mais c'est pour faire du réchauffé.
En même temps, il a des convictions, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont intéressantes parce qu'il incarne une gauche qui est...
Ah ben il a de sacrées convictions. Il est parti de chez nous pour aller en Espagne et puis il revient en disant tout et n'importe quoi. Mais à part ça, il a des convictions, c'est sûr.
Il n'y a pas que le vaccin qui varie. Pardonnez-moi, il n'y a pas que le Covid qui varie. Il y a parfois effectivement les hommes.
Il y a des moments, moi je suis comme vous, il y a des moments, je me pense, mais je dis, mais c'est pas possible.
Mais c'est surtout l'explication qu'ils donnent, cette manière parfois qu'ont les uns et les autres de prendre. Personne n'est dupe, quoi. Tu peux te tromper dans la vie, mais dis-le. Tu dis voilà, je suis allé en Espagne, ça n'a pas fonctionné comme je l'imaginais. Je me suis rendu compte pourquoi pas que la France me manquait, que sais-je. Mais de dire j'ai compris que maintenant j'étais majoritairement français, même rétroactivement, tu te dis était Premier ministre de la France et il se vivait comme un Espagnol. C'est très étrange comme phrase.
Là, je peux vous dire qu'elle est encadrée, cette fille. Hein.
Ah oui.
Ah là, elle est encadrée. Et puis ça, j'espère qu'on lui remettra dans la tronche le jour où il sera invité à un débat.
Eh bien, si je l'invite. Mais en plus, il est sympathique, Manuel Valls.
Mais il a l'air très, très sympa.
Et puis, il a eu des fonctions importantes dans le pays, quand même, ouais. Ce qui mérite le respect.
Vous savez que, Pascal, s'il y en a un qui me manquait pas du tout dans le paysage politique, mais vraiment pas du tout.
C'était lui.
Je pensais même plus à lui.
Bon.
Je savais pas quand il allait sortir un disque, parce que ça y est, nous on sort un disque.
Jacques, oh, merci. Comme il est 24 qu'on va avoir le débrief et que Thomas Soto entre dans ce studio, il reçoit Patrick Bruel, donc il frétille depuis le début de la matinée. Que se passe-t-il, Thomas ?
Le sommeil veut pas de moi. Il veut pas de moi. Non, tu es là ou pas, celle-là, non ?
Mais vous avez. Qu'est-ce que vous avez eu pris au déjeuner aujourd'hui ?
J'ai pris un Coca Zéro.
Bon.
J'invite des amis pendant le débrief.
Le débrief.
Je fais un peu de
Vous avez invité Thomas Sota ?
Thomas Sota.
Thomas Sota.
C'est un du premier groupe, Thomas Sota.
Thomas Sota. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est notre question du jour. Êtes-vous favorable au pass sanitaire pour voyager, aller dans les salles de spectacle, les festivals, les salons ? Vous nous avez donné votre avis, Pascal, dans RTL Midi.
Il est temps de libérer le pays par tous les moyens. Donc le pass sanitaire, si c'est pour libérer le pays, tant mieux.
Des propos qui ont fait plaisir à Nathalie Collin-Euterlé, députée européenne centriste. Elle était l'invitée de Christelle Robière. Ah là, vous avez la cote, une belle promotion.
Comme le disait Pascal Praud tout à l'heure, qui a l'air d'être vraiment notre meilleur ambassadeur.
Saint-Pascal, Vendicola était soignant, il ne partage pas votre enthousiasme.
Par rapport à la confidentialité, bah, ma foi, si vous regardez sur mon Facebook, vous en saurez bien plus sur moi qu'en voyant mon pass vaccinal.
Ouais, un avis partagé par François qui n'hésite pas à taper fort.
L'État rentre trop dans notre vie. Là, c'est encore des interdictions, c'est de la répression. Et on s'en va sur la dictature communiste, là. Les gens, ils s'en rendent même pas compte.
Ouais, rien que ça. Mais Alain, chauffeur routier, ne comprend pas cette méfiance du pass sanitaire.
Ah, moi, je suis plus que favorable au passeport sanitaire. Ce pass sanitaire, c'est une formalité.
Ouais, à quoi pourrait ressembler le monde de demain ? Tiens, que seriez-vous prêt à faire, Pascal, pour sauver le monde ?
Si moi, j'avais une puce, par exemple, dans l'avant-bras, et que cette puce permet, par exemple, d'être retrouvé si, par malheur, je me suis perdu. Par exemple, on ne sait pas, ou en montagne, ou pire solution, j'ai été enlevé, que sais-je, etc. Mais moi, je ne suis pas contre.
Mais la vie n'est pas faite pour qu'on soit enlevé.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire.
Ah, dans l'émission, vous le savez, on adore chanter. Et ce soir, Patrick Bruel est l'invité de RTL Soir. Quelque chose à dire, Thomas Soto ?
Parce que, Pascal, on aurait pu se dire tout ça... ailleurs qu'au café d'en bas. Vous allez peut-être partir.
Et qui dit chanson dit ami Pascal, vous n'êtes jamais très loin pour un petit karaoké.
Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux.
Vous êtes sympa, en vrai,
Pascal. Eh ben ouais, une info, une petite confidence est arrivée aussi vers 13h45.
Thomas qui imite également Gilbert Bécaud, mais ça sera pour une autre fois.
Une autre fois. Bon, c'est vrai que les auditeurs connaissent votre prestation, Pascal.
Je reviens te chercher.
Ouais. Ouais.
Que tu mais mesdames, messieurs, vous avez entendu les voix sublimes de Thomas et Pascal.
À faire pâlir tous les marquis de ça.
Oh oui, j'en tremble, on rêve du duo entre les deux hommes, Pascal Praud, Thomas Soto. Entrez Thomas dans le studio. Et pour la première fois et peut-être la dernière dans l'histoire de RTL, musique Damien Béchiot.
Je reviens te chercher.
À vous, messieurs.
Ouais. Je savais. Que tu m'attendais. Oui. Je savais. Oui. Que l'on ne pourrait. Oui. Se passer l'un de l'autre longtemps.
14h28, il est hors d'en effet pour s'entendre, on va être à la bourre. Quelle est pour vous, Pascal, la chanson de Patrick Bruel qui vous fait penser à Flavie ? Mais quand même, vous êtes plus romantique, disons plutôt ces mots doux à Flavie Flamand.
Je sais bien que je l'ai trop dit.
Ça, c'est extraordinaire.
Il m'a
ça.
Fait la même tout à l'heure, Flavie, faut pas le croire.
Non, mais ça en concert. Vous avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu un concert de Bruel.
Oui.
C'est exceptionnel. Ça te met la.
Tu t'emmenais tes enfants là-bas.
Ça te met la chair de poule. Un concert de Bruel dans les années 90, quand il chantait cette chanson-là, qu'il ne chantait pas d'ailleurs, c'était le public qui la chantait. Mais les gens étaient en transe, tu pleurais.
Pascal, il était comment Napoléon en vrai?
À ce soir, monsieur Soto, et on est très en retard. Regardez,
Flavie, c'est question Patrick Bruel en direct.
Flavie, elle va pas être contente. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.